Je m'appelle Julia Foyce, je suis journaliste et j'ai eu très envie de comprendre de l'intérieur ce qu'on vit, comment on le vit quand on sort de la norme, quand un et un ne font pas toujours deux, quand ton rapport au réel n'est pas tout à fait classique. J'ai proposé à Max, Ali, Agathe, Abigail et Stan de me raconter leur quotidien sous forme de notes vocales enregistrées sur leur smartphone, envoyées sur le mien, comme ça. Sans filtre, sans intermédiaire, sans expert en santé mentale, aucun. J'en avais marre qu'on parle à leur place, je voulais qu'on les laisse exister dans toute leur singularité. Voilà donc leur carnet de bord version 5G et Max au premier jour de son congé paternité.
Alors, je vais vous parler de ma fille, donc elle s'appelle Gilles. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est un jour hyper important pour moi, parce que c'est la reprise de boulot de ma femme. Et du coup c'est la première journée que je passe tout seul avec elle depuis sa naissance, donc début janvier. Qu'est-ce que ça représente déjà pour moi, comment vous dire, si je me rappelle bien, voilà, là, je me souviens d'une scène il y a maintenant 9 ans quand on m'a diagnostiqué bipolaire, où justement ma première psychiatre m'a expliqué gentiment que je pouvais faire une croix sur tout ce qui était lié à l'entrepreneuriat et donc à mes startups de l'époque en Asie, mais aussi et surtout, selon elle, à une vie familiale saine, stable, avec un enfant. Ce qui avait été super dur pour moi à l'époque, parce que de base, moi, je suis très famille et j'adore les enfants. Je suis très proche, notamment de ma sœur qui a 10 ans de moins. Et voilà, pour moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et le fait de tomber malade et d'avoir ce handicap et que cash, on m'explique que ça serait quasiment impossible d'avoir un enfant, franchement, c'était assez horrible à vivre.
Il y a 9 ans, Maxime Pérez-Zitvogel termine ses études de commerce en Chine, crée des startups à tour de bras et la nuit, il ne dort pas. Il se peint en bleu, fait danser ses doigts, le monde lui mange dans la main, enfin, il croit, oui, sauf qu'il a des coups de colère, des coups d'éclat et de sacrées pulsions d'achat. Au bout de 6 mois, ses amis s'inquiètent, ses parents s'inquiètent, rapatriement d'urgence, internement de force, camisole chimique, contention, premier séjour en hôpital psychiatrique et le diagnostic, Maxime est bipolaire, trouble de l'humeur caractérisé par une alternance de phases maniaques et de phases dépressives. Coup de tonnerre, Maxime sort de l'HP, s'enferme dans sa chambre, idée noire, pensée suicidaire, il a honte et il flippe, il passe à l'acte, se rate, peut-être que quelque chose l'accroche à la vie, suicide. Il va mieux, 2 ans plus tard, il reprend le travail, arrête les médicaments, il en a marre, il a confiance, ça va, ça va, ça va, il craque. Nouvelle phase maniaque, 2e séjour à l'hôpital, et là, déclic, ce qu'il va construire cette fois, c'est un lieu de ressources, d'accueil et d'entraide pour ses camarades de voyage. En 2017, son association Bipolaire et Fière et Fiéreux est née, et l'idée de la maison perchée déjà commence à germer, celle d'un sas après l'hôpital, ouvert aux patients, à leurs proches, au grand public. Après 2 ans de travaux, et avec ses 3 cofondatrices, Max inaugure le lieu en plein Paris et en ligne. Entre-temps, il est tombé amoureux, il s'est marié, il a eu une petite fille, sa bipolarité, il a appris à la tenir en laisse, et vous, vous allez passer 40 minutes dans la tête de Max.
La bipolarité, c'est une pathologie psychiatrique de l'humeur qui a une base neurologique, avec une alternance d'épisodes dépressifs caractérisés et d'épisodes dits maniaques, donc d'exaltation. Et c'est un peu comme une chape au-dessus de sa tête tout le temps, parce que ok, on est rétabli dans mon cas par exemple, mais je suis pas guéri, donc en fait ça peut revenir un peu tout le temps, donc il faut faire hyper gaffe à tout ça. Et donc quand les médecins nous disent ce genre de choses, c'est vraiment pour nous alerter sur les changements que peuvent apporter la naissance d'un enfant, notamment le rythme, le sommeil, le changement des habitudes. Voilà, donc il faut être préparé à ça, et c'est pourquoi aussi j'en ai pas mal parlé avec ma psychiatre et ma psychologue. L'idée étant que voilà, je savais que c'était quelque chose de fort et que autant avoir toutes les armes en main pour ne pas ensuite potentiellement retomber malade et avoir un impact sur toute la famille, cette jeune famille, parce que voilà, je sais que c'est hyper dur les premiers mois et je me voyais mal hospitalisé à ce moment-là, surtout pour ma femme. Je sais pas si c'est hyper pertinent tout ce que je raconte, mais je pense juste que si seulement on m'avait dit à l'époque en fait il fallait s'accrocher, j'aurais peut-être pas passé les 2 années qui ont suivi en dépression totale au fond de mon lit à me dire que finalement je pourrais rien faire de ma vie et rien faire comme je l'avais espéré. Et j'ai beaucoup pleuré pendant sa naissance parce que je pensais ne pas y avoir le droit et finalement, il faut croire que tout le monde y a le droit. J'ai un peu du mal à réaliser, je vous avoue, parce que je sors d'un tunnel de 7 ans d'associatif. Il s'est passé tout un tas de choses, mais je pense que je peux être plutôt fier de moi si je rejoins ma première asso bipolarifiée, parce que voilà, j'ai réussi à vivre ma vie et pas non survivre. Et j'ai cette petite être qui pour moi symbolise un peu mon cinquième élément. Quand j'étais jeune, j'étais passionné par ce film. Même si je pense que moi qui adore tout organiser, tout planifier, c'est la seule chose que je pouvais pas vraiment planifier. Et c'est, je pense, la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Devant la glace, je me dis donc Maxime Pérez Zilvogel, 31 ans, fatigué, parce que stressé du fait que ce soit la première journée où je dois gérer ma fille de A à Z. Et en vrai, mon plus gros stress, c'était le biberon et c'est bon. Donc en vrai, je suis trop heureux de ce que je vis aujourd'hui. Sinon, à part ça, je me vois habillé comme d'habitude. C'est-à-dire que je m'habille tous les jours pareil depuis un moment, depuis des années. Pourquoi ? Je pense que d'une certaine manière, ça me permet de me rassurer. C'est une forme de carapace, je pense aussi. Voilà, j'ai cette t-shirt, cette pantalon, cette pull, toujours la même chaussure. Enfin bref, toujours pareil, avec ma casquette fidèle à ma tête et qui me protège des étoiles. Sinon, qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vois que j'ai encore quelques kilos en trop, voilà. Donc ça, c'est assez dingue d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on appelle la couvade, mais après, il n'y a pas que ça. C'est aussi que je n'ai pas marché pendant un mois. Et en fait, je suis tellement organisé, enfin, je marche tous les jours. Et avec la naissance, je n'ai pas trop pu le faire. Et clairement, ça se voit direct. Mais j'ai l'habitude d'avoir des hausses et des baisses de poids depuis mon traitement, donc c'est OK. Mais au début, pareil, je me disais jamais je pourrais perdre mon poids, mais en fait, je me suis motivé et je me suis cadré, et je me suis fixé un rythme, j'ai fait attention. Et attention d'ailleurs au passage, quand on perd trop de poids, on peut partir en manie, mais en manie, c'est donc en phase maniaque, parce qu'on est trop content de reperdre du poids, donc ça nous excite, mais en vrai, ça fait tellement du bien de se ressentir, de reprendre conscience de son corps, comme je le vis depuis maintenant quelques années. Pour moi, c'est nécessaire et c'est une base avant de pouvoir après s'occuper du reste de la vie, c'est-à-dire potentiellement trouver une amoureuse, trouver un mec, enfin peu importe, mais avoir une vie amicale, avoir après trouver un boulot, avoir un rythme quoi. Mais je pense que le corps, c'est quand même une des priorités. Et sinon, qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vois ma boucle d'oreille, voilà. À la base, je l'avais enlevée parce que pour rentrer dans la norme, mais en fait, je sais pas, je la kiffe et c'est ma boucle. Je vois aussi mes tatous, là, en fait, j'en ai pas mal, j'en ai une dizaine, voire plus. Mais ils sont tous cachés, et au-delà de ça, moi j'aime bien dire que mon corps, c'est ma peinture, donc c'est que des tatous qui rappellent des souvenirs. Aux grandes dames de mes parents, parce que j'ai fait le premier à 15 ans, et bref, j'étais pas content. Et que dire de plus ? Non, ouais, je suis plutôt bien. Même si, j'avoue que là, ça va changer bientôt, enfin voilà, il y a pas mal de changements qui arrivent, bah, forcément. La petite qui grandit, on va déménager. Je vais pouvoir moins aller à pied au boulot parce que je vais tous les jours à pied au boulot. En fait, je fais très souvent tout le temps la même chose et je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitudes. Je m'habille pareil, je fais le même chemin tous les jours pareil, je vais voir les mêmes gens, je mange les mêmes choses. Bon, ça peut paraître un peu toqué, mais c'est ça aussi qui maintient cette forme d'équilibre et qui me rassure et qui me permet d'avoir ma base solide pour avancer. Mais bon. Voilà, je surfe, je suis sur la vague, et tant que je tombe pas, c'est good, et je sens que ma planche est en train de se métamorphoser, donc qui plus est avec la maison perchée, qui tourne bien avec la nouvelle équipe qu'on vient de recruter, qui va nous renforcer tout ça, qui va me permettre aussi de sortir un peu de la maison, parce que là, ça fait vraiment 2 ans que j'étais tout le temps dans la maison perchée, là je vais pouvoir aller voir ailleurs, et c'est un peu l'entre-deux qui me stresse un peu, mais c'est aussi ça qui est stimulant. Et qui casse la routine, parce que la routine c'est bien, mais au final voilà, c'est une forme de boucle, et là j'ai l'impression d'être quand même un peu trop dans ma boucle. Et sinon, quand vous regardez dans la glace, bah, N'ayez jamais honte de qui vous êtes, quoi. Du coup, aujourd'hui, on est dans mon appart, enfin dans notre appart, tous les trois. Quand on rentre, on se trouve vraiment dans le salon, quoi. On se croirait, on sait pas où on se trouve en fait. C'est vraiment le ressenti des gens quand ils viennent à la maison. C'est parce que c'est un souplex complètement caché avec une forme de petite cour avec plein de bambous. Donc en fait, on se croirait devant un mur de verdure du Nicaragua ou un truc du genre. On sait pas trop où on est. Et là, du coup, il y a l'espace, le canapé, et tout un panel de bouquins, plein de souvenirs, et aussi maintenant toute une myriade de peluches en tout genre pour ma fille. Il y a aussi donc une vieille table de ferme, table basse qu'on vient de récupérer parce qu'on va déménager. Parce que voilà, cette partie était un peu atypique et histoire de. Ça me fait bizarre de dire ça, d'être plus normal, on va dire. On va avoir un appartement avec une chambre pour un enfant. Mais qui est aussi la suite logique des choses. Mais ouais, quand je sais tout ce qu'on a vécu dans cet appart, notamment les débuts de Maison Perchée, parce que voilà, on a bossé d'ici tous en équipe pendant 2 ans, notamment le confinement, notamment la grossesse de Léonie, notamment l'accouchement aussi, parce que du coup, on y allait à pied en partant d'ici, et du coup, on a vécu les dernières heures hyper intenses tous les deux à l'appart, ce qui était assez dingue. Donc ouais, cet appart, c'est un bout de ma vie. Sinon, on arrive dans la cuisine où là, c'est des tomates au sol, où vraiment on se croirait à la campagne. Moi, j'aime bien comparer ça à ma cachette. Mais d'ailleurs, il n'y a même pas de réseau. Donc du coup, c'est vraiment ma bulle et qui a contribué à mon équilibre psychique, pour sûr. Après, il y a aussi pas mal d'objets, parce que ouais, c'est un peu cabinet de curiosité avec ma femme. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'on est pareil. Du coup, on aime bien plein de trucs. Et du coup, il y a par exemple un gros cachalot en tôle, un lion en plâtre. Il y a aussi tous mes ustensiles de cuisine, parce que à la maison, c'est moi qui cuisine. J'adore ça, et en fait, j'ai aussi compris, pendant ma dépression, j'ai réappris à faire le marché, en fait, avec ma grand-mère, et j'ai gardé ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi une affiche, aussi, à l'époque, avec Bipolaire et Fier. Je me faisais tous les dimanches une affiche écrite à la main d'une citation d'une personne connue sur la folie, et que je mettais qu'un fond différent. Et là, j'en ai une sur Bukowski qui dit « Certains ne deviennent jamais fous, leur vie doit être bien ennuyeuse. » C'est une de mes préférées, avec aussi Churchill qui disait que la grande leçon de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous plus que les sages qui ont raison. Sinon, j'ai aussi plein de plantes. Et ça, c'est ma femme qui gère, elle adore faire ça. Et j'ai plein de magnifiques plantes un peu de partout, avec parfois des mains en plastique dedans qu'on a retrouvées un peu dans la rue. Et on va quitter cet appart-là, donc c'est vraiment... Ouais, c'est une étape, voilà. Que dire de plus ? Y a les toilettes, la salle de bain, et il y a mon spot où il y a mes petits médocs, où tous les soirs je m'accroupis pour prendre mes médicaments, mes 5 cachets, et aussi mes lentilles tous les matins. Et ensuite, en dessous, c'est un souplex, il y a donc notre chambre avec un mur avec plein d'images aussi de récupérer à droite à gauche. Même ma plaque d'immatriculation, parce que j'avais une moto en Chine avec un faux permis, fausse plaque. Et maintenant, le cododo, pour la petite, la nouvelle vie. Et après, on a une autre chambre où c'est un peu le débarras, où c'est en voûte sous pierre. Mes potes se foutaient de ma gueule parce qu'on dirait un donjon. Une copie d'un clin faite par ma sœur pour mon anniversaire. Parce qu'il y a une artiste dans la famille, c'est ma petite sœur qui m'avait fait une copie d'un clin. Parce que ouais, j'adore le bleu. Je me peignais en bleu à l'époque, quand j'étais un peu en phase. Mais au-delà de ça, j'adorais me peindre en bleu. Et notamment avec un mec qui s'appelle Nico de la Fée, qui avait fabriqué une machine pour faire danser les doigts. Et on avait fait quelques scènes en Asie, où moi je mettais la musique pas en bleu, et lui, il faisait bouger les doigts des Chinois qui dansaient avec un cadélioscope. Enfin bref, on s'est bien marré. Et là, quand j'y pense, je vois aussi la boule disco, qui est dans une lumière vintage que j'ai chopée chez Emmaüs, qui fait du coup des petits points dans toute la pièce. Aussi, c'est un souvenir du mariage. Et aussi, enfin, pour finir, j'observe, j'ai encore 3 paires de bipolettes. C'est des lunettes que j'avais fait en face de Mani, qui permettaient de voir la vie du bon côté. C'était des lunettes un peu futuristes, en hommage un peu en lien avec Daft Punk. J'ai toujours trippé un peu sur Daft Punk, que j'ai d'ailleurs rencontré il y a pas longtemps, en allant à pied à la Maison Perchée, avec qui on a pas mal discuté. Il y a aussi ma vieille radio, parce que j'aime beaucoup le son. J'écoute du son tout le temps, plus ou moins 2 heures par jour en marchant. Mais chez moi, j'ai juste une radio. J'écoute pas de son de mon téléphone. C'est que la radio à la maison, ce qui est aussi chouette. J'aime bien garder ce côté à l'ancienne. Dès que je suis tout seul, j'écoute du son. J'aime beaucoup cette phrase de Dorelson qui dit « Quand je le laisse seul, mon esprit s'égare dans la pénombre. » Et moi, c'est un peu ça. En fait, sans son, je suis capable de partir trop loin dans mes pensées. Et in fine, du coup, d'avoir cette musique en permanence me permet aussi de m'accrocher avec quelque chose et de réfléchir à ça. Et au-delà de ça, de me faire kiffer, parce que je kiffe le son. C'est pour ça qu'elle m'accompagne dans tout ce qui est déplacement. Donc dès que je suis en mouvement, j'ai du son. Ça me met un peu de bonheur dès le matin. Et au-delà de ça, ça me rappelle souvent des souvenirs. Pour moi, c'est plein de souvenirs. Et du coup, c'est important pour moi de m'accrocher à ça et d'avancer avec.
Parfois, je me sens étranger à ma propre terre. Extraterrestre. Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire. Avec ce type là, je suis d'une autre espèce. Je viens ni du futur, ni du passé. Je viens tout simplement d'ailleurs. Me demande pas ce qui s'est passé. Je suis allé au bout de mes peurs. Colonel Kurz, Marlon Brando. Je reviens du cœur des ténèbres. Seul avec moi, comme John Rambo. J'ai cousu mes propres plaies. Je reviens en paix, j'ai gagné cette guerre.
Alors maintenant, je vais vous parler de autre espèce, de This Is. Ce qui est assez hallucinant avec cette chanson, c'est qu'elle est sortie pendant que j'étais à l'hôpital psychiatrique. Et en fait, si vous êtes déjà passé par l'hospice, vous connaissez forcément ces stars. Ouais, il faut savoir qu'à l'hôpital psychiatrique, moi, il n'y avait que ces stars allumées. Donc il y avait les clips en boucle. Et voilà que ce clip arrive. Et moi, j'ai toujours porté beaucoup d'importance aux paroles des chansons. Et là, je l'écoute vraiment et je me dis « Waouh !» On dirait moi. Et en fait, c'est grâce à cette chanson que j'ai trouvé l'idée du nom de l'association Bipolaire et Fier. Et c'est aussi ça qui m'a motivé à marcher. Enfin, je sais pas, il y a eu un truc avec cette chanson. Donc, intéressant de se rendre compte à quel point une chanson peut avoir un impact sur ceux qui l'écoutent, quoi. Parce que moi, ça a été mon cas, elle m'a transpercé.
J'étais dans l'espace, moi j'ai rien à voir avec cette histoire. Avec ce type-là, je suis d'une autre espèce.
Donc là, je vais à la maison perchée, je pars de chez moi, donc j'en ai pour 40-45 minutes de trajet. Donc la maison perchée, qu'est-ce que c'est? C'est donc la maison, enfin une maison, qui permet d'accompagner les jeunes personnes concernées par les troubles psy, mais aussi donc de sensibiliser le grand public et aussi de contribuer à faire évoluer les choses en psychiatrie, ce qui est nécessaire. Je pars tous les jours à 9h15 pour une ouverture de la maison à 10h. In fine, je mets 45 minutes le matin et 45 minutes le soir, mais du coup, c'est un peu mon moment à moi aussi où je peux faire le point, découvrir des nouveaux sons. C'est aussi mon petit rituel dans le sens où je croise tout un panel de gens maintenant que je reconnais sur la route. On se croise tous les jours, donc parfois on se dit bonjour, ce qui me rappelle d'ailleurs l'hôpital. Et ce qui est d'ailleurs très sympa à l'hôpital, parce que tout le monde se dit bonjour et je trouve que c'est agréable de dire bonjour à des gens le matin. C'est aussi pour me dépenser parce que moi, le premier, comme certains bipolaires, je peux être aussi hyperactif parfois, même souvent. Et du coup, je sais que ça me permet de me canaliser. Et notamment, je sais que quand je marche pas, bah, j'ai besoin de sortir, de prendre l'air et de marcher, de me défouler un peu. Moi, je suis quelqu'un qui fait pas de sport en tant que tel. J'aime juste nager l'été et marcher le reste de l'année. Ça me permet de me sentir ancré et de faire marcher mon corps et je pense mon esprit de connecter tout ça et aussi de profiter de la chance que j'ai d'avoir ce trajet quotidien qui certes est tous les jours le même parce que je change jamais de trajet, mais aussi de voir la magie aussi de Paris en fait, de la chance qu'on a d'être dans une ville comme ça et de notamment moi je passe de la rive gauche que j'aime bien comparer à ma rive de repos à la rive droite, pour moi synonyme de sortie de travail, sachant qu'il peut m'arriver d'être oppressé, notamment quand il y a trop de monde. Je sais pas comment expliquer, mais je ressens un truc dans mon corps qui m'oppresse en fait quand il y a trop de monde parfois et quand je me sens écrasé. Et ça me rappelle notamment la contention quand j'étais attaché à l'hôpital. Donc pas forcément des super moments. Donc voilà, j'ai mon petit chemin et enfin vraiment, ça je kiffe quoi. En 45 minutes, j'ai le temps de découvrir trop de trucs, d'appeler ma famille parce que c'est bête, mais j'ai pas de réseau chez moi. Donc du coup, ça me permet aussi d'appeler mes grands-mères sur le trajet et de leur raconter notamment l'évolution des travaux de Notre-Dame, parce que je passe tous les jours devant.
Et voilà, et aussi voir juste la vie des gens, et ça me fait plaisir, et ça me motive, et ça m'inspire aussi. C'est aussi pendant ces marches que j'écris notamment tous mes textes quand je dois prendre la parole, comme par exemple j'ai pu faire à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Sur scène à l'Olympia, je me souviens, j'avais fait je sais pas combien de kilomètres pour l'écrire, parce qu'in fine, j'ai du mal à me poser et à écrire. Et voilà, je cherche l'inspiration, je trouve l'inspiration en me nourrissant de la lumière, de la vraie lumière du soleil, ça me fait du bien. Pourquoi cette bipolarité peut m'handicaper au quotidien? Il faut être conscient qu'en fait c'est un impact sur tout un panel de choses au cours de notre vie en fait. Tant sur le plan scolaire que social que professionnel, dans le sens où en fait c'est hyper dur d'avoir un rythme classique. Moi le premier, voilà, j'ai dû adapter tout mon rythme à tous les niveaux. J'ai aussi dû arrêter mes études parce que voilà, ça n'allait pas. Mais voilà, ça a quand même un impact énorme sur la pensée, les actes au quotidien, les émotions, le comportement, l'état de santé global aussi, parce que voilà, il faut pas oublier qu'en moyenne on a 10 à 20 ans d'espérance de vie en moins, que ça... Enfin voilà, c'est pas pour rien que c'est un handicap, d'une part, que c'est pas juste lunatique, et au-delà de ça, c'est difficile à décrire tant en fait cette bipolarité est présente à tous les niveaux dans ma vie quotidienne et à quel point je dois en fait vivre avec. Et même si la recherche avance, c'est pas demain la veille qu'on pourra aller vraiment mieux et guérir. On pourra toujours se rétablir, plus ou moins, même si c'est notre objectif et moi je me considère comme rétabli en ce moment, mais même si il est quand même possible de passer du bon temps et d'exister et de vivre, c'est pas facile tous les jours. Ça y est, j'arrive à la maison, perché. Je me sens bien dans le sens où j'ai fait mes 3 km de marche, ce qui est in fine ma forme de yoga à moi. Je pense que chacun a sa forme de yoga. Mais tant que ça reste une forme de yoga et pas une forme de fuite, je pense que voilà, il faut trouver son équilibre et pas que ça devienne une fuite en fait. Et voilà, donc moi cette petite marche me fait du bien. Donc du coup, il me reste mes 4 km ce soir, parce que généralement je fais une balade aussi avec ma fille. Et en gros, ça rejoindra ma moyenne journalière depuis plus ou moins 7 ans, donc 7 km. J'ai la chance d'avoir trouvé ce qui me permettait de trouver l'équilibre. Voilà, aujourd'hui, c'est une grosse journée parce qu'on a notre séminaire d'équipe et demain, on va préparer donc notre partenariat qui commence demain avec le Palais Tokyo, donc j'ai hâte. C'est un peu ça tous les jours, j'ai toujours hâte de la journée qui arrive parce qu'il se passe plein de choses à la Maison Perchée et c'est assez magique. Alors me voilà devant la Maison Perchée. On a mis plus d'un an de recherche, plus d'un an de travaux. C'était évidemment pas évident de trouver l'espace qui plairait à la communauté, dans le sens où voilà, il y avait quand même pas mal de critères pour nous hyper importants, comme l'accessibilité, donc avec le métro devant, un espace avec un haut volume, parce que hyper important, moi le premier, quand je vais dans un endroit exigu, ça peut très vite m'oppresser. Ouvert, lumineux, avec cette belle devanture et ces grandes fenêtres, avec des couleurs sympathiques. Enfin, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une maison, entre guillemets, à notre image, avec mes cofondatrices. C'est-à-dire, voilà, c'est tout simplement ce qu'on aurait voulu avoir en sortant de l'hôpital psychiatrique. Donc voilà, l'idée, c'était d'avoir un endroit un peu sympa qui dénote avec ce qui existe habituellement dans le secteur psy. Aussi, le fait que l'espace soit donc un gros rectangle, dans le sens où il n'y a pas de porte, tout est modulable et on a vraiment pu aussi s'amuser à scinder l'espace en fonction de nos 3 priorités et nos 3 missions qui sont donc contribuer à faire évoluer les méthodes en psychiatrie. Donc ça, c'est plutôt l'espace bureau au fond avec l'autre espace en dessous. Il y a ici donc
L'objectif 2, donc sensibiliser le grand public, donc avec cette cafette qui donne sur la rue et qui permet aux tout venants aussi de venir et de montrer que, voilà, pour une fois, on n'est pas en marge et qu'on est en plein cœur de Paris, dans une dynamique de quartier sympathique. Voilà, pourquoi on a choisi le 11e aussi, c'est parce que c'est le quartier où il y a le plus de vie associative, parce que c'est central, parce que c'est accessible. Gare du Nord, Gare de l'Est. Qu'est-ce que je ressens aussi, moi, quand je suis dans le lieu, là, déjà, je suis tout seul, ce qui est rare maintenant, parce que la maison, ça fait un peu plus d'un an qu'elle est ouverte, donc il y a beaucoup de vie. Comme par exemple, là, ce samedi dernier, il y avait un pic à un moment de 90 personnes tout au long de la journée, en fait. Donc voilà, il y a quand même du monde qui brasse, et l'objectif étant quand même de se sentir bien dans la maison, c'est quand même l'objectif quand même premier, on va dire. Et ce qui est chouette aussi, c'est quand je me balade, je me souviens un peu toutes les étapes de construction, parce que voilà, ça a pris plus d'un an de travaux. En plus, c'était pendant la guerre en Ukraine, donc c'était compliqué. Pas évident de trouver les financements, donc aussi. Donc tout ça a été possible grâce à un crowdfunding au départ. Donc je remercie toutes les personnes, d'ailleurs, on les remercie qui ont contribué, parce que voilà, chaque personne peut apporter sa pierre à la maison. Voilà, je vois aussi ce qui est vraiment chouette, c'est que, donc, ce principe de matinée ouverte au grand public qui fonctionne vraiment bien. Donc il y a à la fois des gens du quartier, des touristes, des gens de passage, des professionnels de santé. Voilà, l'idée, c'est que c'est de pas être dans l'entre-soi, tout en ayant quand même cette idée de tous les après-midi deux activités qui peuvent passer du stop motion au théâtre, au coaching de vie pro, à la danse, à l'art plastique, à la photo, à la musique. Voilà, tous les deux mois il y a une expo avec les membres de la communauté, ce qui est génial, je pense notamment au vernissage où très souvent certains pour la première fois sont exposés, donc ça c'est assez magique quand même. Et en plus, dans cette logique d'envoyer les expos une fois qu'elles sont terminées hors les murs, comme là par exemple au Palais de Tokyo, c'est assez incroyable de se dire que cette maison rend tout ça possible. Donc je pense vraiment à cette idée de maison, de collectif, et en fait voilà, cette maison, c'est une vraie fierté, je pense, pour toute l'équipe, parce que c'était pas gagné d'avance, hein. Au début, on nous avait vraiment dit que c'était de la folie, mais voilà, au final, comme quoi, faut s'accrocher aussi à ses rêves et voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ce gros soleil sur la façade avec la terrasse qui permet aussi de prendre l'air si besoin, avec quand même un rappel sur l'entrée, avec cette fresque qu'on a choisie, qu'on a votée en équipe pour rappeler aux personnes, parce que souvent, s'il arrive qu'on me dise que je suis guéri, je leur rappelle que 80% des handicaps sont invisibles, donc c'est important d'en parler. Voilà. Je vous invite à venir à la maison et c'est pas parce qu'on n'est pas concerné qu'on ne va pas venir, en fait. C'est important de prendre le temps de s'enseigner, parce qu'évidemment, aussi, à la maison, il y a plein de ressources importantes, parce que c'est pas parce qu'on l'est pas qu'on le devient pas. Et moi, le premier, j'aurais bien voulu passer à la maison perchée avant de tomber malade. L'objectif aussi de ce lieu, c'est de permettre aux gens de gagner du temps et d'avancer, et non plus tourner en rond, et surtout de vivre et non plus survivre. Et enfin, la cafette et toutes ces créations de Giacomo, qui amène aussi tout son surplus de sagesse et d'âme. Et c'est ça aussi qui fait la magie de ce lieu, c'est... Faut venir pour le voir et pour le comprendre, et justement, je pense que tout à chacun devrait passer par cette phase d'introspection que j'ai pu avoir en sortant de l'hôpital. Chacun devrait passer boire un café à la maison perchée pour aussi prendre le temps et de se demander, moi, comment ça va? Comment vont mes proches? Est-ce que je suis au courant de ce genre de pathologie? Voilà, la maison, pour moi, c'est aussi une étape. C'est une forme de tremplin. Et donc, venez sauter avec nous. Pour conclure, je dirais que la maison perchée, que je viens de quitter d'ailleurs, je rentre à ma vraie maison. C'est vraiment, selon moi, un rêve qui devient réalité, je pense. Donc c'était vraiment de la sueur, beaucoup de sueur, beaucoup de travail que de monter un projet et d'ouvrir un lieu comme tel. Mais voilà, quand on voit le résultat, ça fait tout prend sens. Parce que, on va pas se mentir, hein, quand on voit l'état actuel de la psychiatrie, le manque de place, le manque de lit, le manque de psy, tout le monde est bien content qu'on ait ouvert aussi. Mais dans l'idée, voilà, je pense qu'il faut qu'on avance tous ensemble. Moi, je sais qu'en sortant de la maison perchée, par exemple, où c'est quand même hyper intense,
voilà, je suis au contact de personnes avec des troubles psychiques quotidiennement et parfois voilà, j'entends et je vis leurs histoires également et de ce fait ça peut être parfois très très intense. C'est pas facile tous les jours que d'être au contact de gens qui sont pas forcément bien du tout et d'autres moins bien. Et voilà, c'est juste que voilà, le soir parfois, waouh, on se rappelle d'où on vient et ça peut être assez triste. Et forcément, ça rappelle en arrière toutes ces années sombres que j'ai pu avoir et ça permet de s'accrocher du coup et de dire bah c'est du passé quoi. J'aime bien dire généralement de ne pas savoir tout à fait où je veux aller, mais savoir où je veux plus du tout aller. Et ça, c'est hyper important et ça. C'est aussi ça qui fait que je me suis imposé tout un panel de règles et de cadres pour en fait pouvoir être bien quoi et ne plus être en stress par rapport à la maladie. Et voilà, j'aime bien le soir, enfin habituellement ce que je faisais c'est le soir je sortais voir des potes ou j'allais faire quelque chose avec Léonie. Mais j'avais besoin de ce temps hyper précieux pour moi de soupape entre la maison perchée et la maison tout court. Mais maintenant, voilà, par exemple, ça change pour moi et j'avoue que c'était dur au début, mais on se retrouve du coup très souvent tous les trois et c'est très bien comme ça. Après X années de diagnostic que je ressens de ce chamboulement. Parce que, évidemment, c'est pas rien l'annonce d'un diagnostic. Moi, j'ai mis 2 ans à l'accepter, et parfois ça peut prendre beaucoup plus de temps. Autant pour l'accepter que pour la pose du diagnostic, qui est d'une moyenne de 7 ans. Donc, je suis hyper conscient de la chance que j'ai eue de l'avoir aussi rapidement. Je pense que ça, quand on a quelque chose comme ça qui nous arrive, un handicap à vie, bah forcément, ça re-questionne un peu tout notre équilibre et toutes nos priorités. Et moi, ce que je ressens en premier, c'est surtout cette forme d'introspection que j'ai dû avoir et que j'ai eue et qui, selon moi, in fine, devrait en fait être faite par toutes et tous, dans le sens où voilà, j'ai appris à me connaître, alors qu'avant j'étais dans une logique de business, du profit, de l'argent, et voilà, me rendre compte qu'au final, tout ce que j'espérais avant n'est finalement que relayé bien loin dans mon ordre de priorité, voilà. Donc je pense que le fait d'être tombé malade et toujours vivant, ça change la vie. Et dans mon cas, ça m'a aussi, ça m'a ouvert les yeux sur ce que j'aurais potentiellement voulu vraiment faire de ma vie, au-delà de juste faire du business entre la France et l'Asie, et justement me concentrer sur les gens et faire des choses avec les gens et me nourrir de ça pour évoluer et apprendre au quotidien. Je pense que la bipolarité m'a ouvert les yeux en fait. Il est 21h30 et je suis KO. Je garde entièrement ma fille depuis la reprise de taf de ma femme. Du coup, levé 7h et là, du coup, je suis HS. En fait, moi, il y a 2 choses. C'est avant de me coucher, dans tous les cas, j'ai besoin d'avoir l'esprit libre. Donc, je prépare ma journée du lendemain, je prends des notes. Et ça fait un point en moins pour la nuit. Et il y a forcément aussi l'étape donc, des médocs. Les médocs, c'est un peu une longue histoire, mais dans l'idée, voilà. En fait, déjà, c'est quand on t'annonce que t'as un trouble psychique, enfin, dans mon cas, ma bipolarité, que tu dois prendre des médicaments tous les jours jusqu'à ta mort, entre guillemets, bah, c'est assez dur à encaisser. Qui plus est, quand on te fait comprendre assez vite qu'il peut y avoir tout un panel d'effets secondaires, donc on commence à te les lister, et t'es là genre, waouh. Enfin, c'était un peu la double peine quand même à ce moment-là, mais on t'explique qu'en fait, malheureusement, il n'y a pas le choix, il n'y a pas trop d'autres solutions, ou alors de ne pas en prendre, mais bon, voilà, à tes risques et périls. Enfin, la seule fois où j'ai un peu arrêté de prendre mes médocs, j'ai replongé direct. Donc je pense, dans mon cas, que, enfin, selon mon vécu à moi, en tout cas, je dirais qu'il est important de prendre des médicaments pour avoir une base et après avancer à son rythme. Mais qui dit médoc dit devoir y penser quotidiennement, dit si tu veux partir en week-end ou quoi que ce soit, faut pas les oublier. Si tu veux partir à l'étranger, ce qui est ouf, c'est qu'il n'y a pas forcément les mêmes molécules
Donc du coup, il faut prévoir à fond en avance parce que les pharmacies ne veulent pas te délivrer la quantité nécessaire pour partir plus de 6 mois. Enfin voilà, c'est clairement un poids en plus, même si c'est aussi ça qui nous permet de faire tout ce que je fais au quotidien, quoi. Donc ouais, c'est vraiment une part importante donc, de mon process tous les soirs, donc de prendre mon médoc. Je le fais quand je me couche. Mais par rapport aussi aux effets secondaires, ce qui peut être chiant, c'est, enfin dans mon cas, c'est que ça attaque mes reins et du coup ça me donne soif en fait. Donc du coup la nuit ça peut être réveillé plusieurs fois. Et maintenant que j'ai un enfant, c'est un peu chiant de se réveiller la nuit, de peur de réveiller l'enfant. Mais bon, j'ai assez vite compris que les médicaments au final c'était plutôt une forme de béquille et c'était plutôt une forme d'allié. J'ai pas envie de dire que j'ai une relation particulière avec mes médicaments, mais limite, quoi. Je me dis que c'est incroyable de dire que grâce à ça, je peux pouvoir avoir une vie, entre guillemets, normale. Et c'est quand même fabuleux, voilà, que ça soit possible. Peut-être qu'un jour, en fait, tout aura évolué dans 20 ans, dans 30 ans. D'ailleurs, peut-être que ma fille sera concernée elle aussi et qu'elle aura même pas besoin de prendre des médicaments. Qui sait? Ça se trouve, d'ici là, ils auront trouvé une nouvelle chose à faire pour permettre justement au bipolaire de plus avoir besoin de chimie tous les jours pour avancer, quoi. Mais ça, on verra. L'avenir nous le dira, j'espère. Ça ferait sens étant donné le nombre de personnes concernées, encore une fois. Parce que si on prend toutes les personnes concernées par les troubles psychiques et leurs proches, ça représente quand même plus ou moins 12 millions de personnes en France. Donc on peut se dire que voilà, ça serait peut-être pas mal d'avancer et que tout le monde s'y mette pour permettre à toutes ces personnes d'aller mieux, tout simplement. Alors il y a mes 3 petites pilules blanches, mes 2 petites pilules roses. J'aime bien leur donner des petits noms. Bah, une semaine sur deux, c'est Jekyll et Hyde, et l'autre, c'est Yin et Yang. Non, j'essayais d'être drôle, mais je suis pas drôle du tout, en fait. C'est très, très pourri, ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Non, l'idée, c'est quand je prends mes pilules, comme ça, le soir, bah, c'est mon petit rituel, et en fait, j'en arrive à un niveau où, en fait, je le fais, j'y pense pas, et je me dis, de toute façon, c'est comme ça. Et il m'arrive parfois de les oublier, mais c'est rare. Je sais pas, genre une fois tous les 6 mois, mais jamais plus d'une soirée. Ou alors, ça peut arriver s'ils sont en rupture de stock, parce que voilà, bon, génial. Ça arrive qu'un de mes 2 médicaments soit en rupture de stock parfois. Non, mais c'est devenu un geste du quotidien, comme celui de me brosser les dents. Voilà, Mais bon, je le fais quand même un peu à l'arrache, dans le sens où il y en a qui ont des piluliers et tout ça, mais pour moi, ça, c'était un peu too much pour moi. Donc juste, j'ai mes petites plaquettes et tac, 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 tac. Je les prends toutes d'un coup et sans forcément boire d'eau d'ailleurs. Et ça c'est fait comme ça, je sais que c'est un peu mon ticket vers l'équilibre entre guillemets.
Je dois être fait d'un autre alliage, d'une autre étape dans notre habillage. Je n'ai rien contre les enfantillages,
on est adultes trop tôt,
c'est de plus en plus grand. Et ça se voit sur beaucoup de visages.
Dans la vraie vie y'a pas de filtre Instagram.
L'insoutenable légèreté de l'être. Pour profiter de l'autre, y'a toujours une raison.
Et je dois être extraordinaire.
En vrai, je pourrais vivre sans
téléphone maison.
Me contenter de dattes, de miel et de lait. Des livres comme engrais pour une âme qui pousse bien. Pèlerin piéton sous le soleil en vrai. Oula, oula, ce serait vraiment trop bien.
Oula, oula. Oula, oula, ce serait vraiment trop bien.
Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire. Avec ce type-là, je suis d'une autre espèce.
Pour remettre un peu de contexte sur ce que je disais sur le fait que le sommeil pouvait provoquer chez moi un sentiment de mal-être et aller jusqu'à provoquer des hypomanies. Moi, je me suis fixé un cadre de jamais me coucher après 3 heures du matin et de dormir 7 heures par nuit parce que je sais que quand je dors moins, je me sens pas bien. Et je sais que si j'y déroge, je peux potentiellement prendre des risques pour partir en hypomanie. L'hypomanie, qui est en fait la phase avant la manie, donc c'est une petite manie, on va dire. C'est difficile à décrire hein, tant qu'on l'a pas vécu. L'idée, c'est que ça tout va un peu plus vite. Mais l'hypo, ouais, c'est quelque chose qu'on peut ressentir et qui, justement, si elle est mal ressentie, enfin, moi, dans mon cas, je la sens arriver quand elle arrive. Parce qu'une fois qu'on attend trop longtemps, généralement, c'est difficile de faire marche arrière sans, sans une phase d'hospitalisation. Et qui dit hospitalisation dit, enfin moi dans mon cas, au moins un mois sur place. Donc ça fait perdre beaucoup de temps, ça a un impact sur plein de choses, sur la famille, etc. etc. Quand tu sens que tu es en hypomanie, évidemment, c'est pas facile à gérer parce qu'on a toujours l'inquiétude et la peur de retourner à l'hôpital. Parce que quand on y est déjà allé, on sait ce que ça veut dire. Donc à chaque fois que je me couche, en fonction de l'heure de mon coucher, bah, je rajoute 7 heures et je suis hyper organisé comme ça. Et j'ai la chance de m'endormir directement. Potentiellement, c'est peut-être dû à justement au fait que je marche, que je mette en place tout un panel de choses tout au long de la journée qui font qu'en fait, dès que je me mets au lit, je m'endors. Je touche du bois pour que ça continue. Mais du coup, j'ai dû clairement aussi tirer un trait sur pas mal de choses de ma vie d'avant, c'est-à-dire faire la fête toute la nuit, c'est-à-dire aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, parce que parfois ça m'oppresse et ça peut me faire me sentir très mal. Ça peut faire vraiment quelques années que j'ai pas dérogé à ma règle des 3 heures du matin et depuis tout va bien, donc je compte pas changer. La seule fois où je l'ai fait, bah, c'est d'ailleurs pour la naissance de ma fille où j'ai dû faire une nuit blanche, mais en fait dès le lendemain, je le savais, je l'ai senti que ça commençait à pas aller. Et heureusement, comme on est une équipe avec ma femme, j'ai pu passer la nuit d'après chez nous et prendre un petit bout de mon médicament si besoin pour justement me calmer. Qu'est-ce que c'est un si besoin ? Ça porte bien son nom, c'est un médicament que je prends si je sens que ça commence à s'accélérer. Et ça m'arrive tous les une fois par an, peut-être potentiellement. Même si au début, j'avais tendance à trop le prendre parce que je m'auto-évaluais. Et en fait, j'avais dit à ma psy un jour, mais j'arrivais pas à m'endormir. Elle m'a dit, mais Maxime, n'oubliez pas qu'en fait, vous restez un être humain, vous avez le droit d'avoir du mal à vous endormir. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un énorme déclic aussi sur toute cette forme d'auto-évaluation constante et de juste aussi un peu lâcher prise et juste me rendre compte mieux de comment je me ressentais en fonction des situations et auquel cas m'adapter et trouver le bon cadre que je pense pour l'instant avoir trouvé. J'avais beaucoup peur avec la naissance de ma fille que ça le dérègle, mais in fine, ça va. Parce que je m'étais bien préparé et qu'elle fait ses nuits. Et c'est assez fou parce que j'ai l'impression que ma fille a compris potentiellement qu'elle avait un papa un peu différent. Et dès sa première nuit, elle a bien dormi toutes les nuits. C'est assez incroyable. Et notamment aussi avec ma femme, parce qu'on va pas se mentir, on est une équipe. Hein, et heureusement qu'elle est là aussi pour gérer, parce qu'il peut m'arriver d'être fatigué. Très fatigué même parfois, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai un peu encore une fois du mal à réaliser, mais parce que franchement, ça fait depuis mon diagnostic qu'on me rabâche que c'est pas possible, voire ou alors très compliqué d'avoir un enfant. Donc une fois qu'on l'a, c'est un peu délicat, on va dire, à vivre. Et aussi ce petit être, je sais que voilà, elle dort à côté. Mais moi, je suis persuadé que si elle devient un jour bipolaire comme son papa, le monde aura changé d'ici là. Et c'est sûr, ça, je pourrais lui expliquer quand elle aura grandi que c'est sûr qu'elle vivra pas ce que son papa a vécu, c'est-à-dire être attaché sans savoir pourquoi, etc., etc. Et découvrir que dans sa famille, il y a des personnes concernées, parce que moi, c'est décidé. Enfin, c'est évidemment acté qu'avec ma sœur, mon frère et je pense nos enfants respectifs, on sera OK pour en parler, pour justement avancer en famille. Et à chacun sa clé du bonheur et sa clé de son équilibre. Et moi, je pense que c'était l'élément manquant. Et je suis tellement heureux. Et pour la première fois de ma vie, je pense que je suis comblé et épanoui. C'est assez magique. Et Gilles, je t'aime.
Cet épisode a été réalisé par Séverine Cassard, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion. Supervision, Fanny Boyon. Dans la tête de est un podcast original de France Inter.